Et devant moi, ça faisait longtemps, je suis bien contente de la retrouver, Sarah Osama, bibliothécaire. Bonjour Sarah.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Sarah, donc vous êtes bibliothécaire à la direction des bibliothèques de Montréal et aujourd'hui, sujet qui va intéresser nos auditeurs et auditrices qui sont des fans de radio, mais aussi de balado.
Oui, c'est ça. Alors, ceux qui nous écoutaient, il y a environ un an, je suis venue vous parler de la deuxième saison de Histoire de balado, qui est le balado produit par les bibliothèques de Montréal et qui est un de mes projets chouchous dans le cadre de mon travail, de tout ce que je fais.
Vous êtes très impliqué dans le projet.
Oui, vraiment, je l'anime, puis je coordonne tout ça. Et donc, le mois passé, la saison 3 est sortie et on a quatre nouveaux épisodes qui sont disponibles sur toutes les plateformes usuelles de balado, donc Amazon, Spotify, Google et compagnie. Et vous pouvez aussi trouver tous ces épisodes-là, les nouveaux épisodes et les anciens, sur la chaîne YouTube des Bibliothèques de Montréal pour plus de commodité pour certaines personnes.
J'invite les gens vraiment à découvrir ces balados-là qui sont passionnants, bien faits, c'est jamais ennuyant, les questions sont pertinentes, les auteurs-autrices ont envie d'être là et ça nous fait découvrir justement des écrivains, des œuvres. Et pour la troisième saison, vous commencez de belle façon.
Oui, c'est ça. La première autrice qu'on a voulu rencontrer, ben, c'est Caroline Dawson. C'est une autrice qui a publié en 2020 Là où je me terre, qui a eu vraiment un énorme succès critique, un énorme succès auprès du public aussi. Il a gagné entre autres le prix des collégiens. Et dans son livre, elle raconte en fait le parcours de sa mère et son propre parcours d'immigrante, donc enfant qui vient du Chili, qui a dû s'adapter à différentes choses quand on arrive au Québec d'un autre pays, et entre autres l'apprentissage du français dont elle parle vraiment en long et en large dans ce livre-là. Et dans son parcours, elle habite brièvement, c'est le premier appartement qu'elle a dans Ahuntsic avec ses parents. Et donc, on a décidé de choisir ce quartier-là à découvrir avec elle. Donc, on s'est rencontrés à la bibliothèque d'Ahuntsic. Et c'est aussi ce quartier-là, en fait, c'est le début de son parcours à Montréal, mais c'est aussi le début de son parcours d'apprentissage du français et de sa connaissance des bibliothèques. Alors, je vous laisse écouter ce qu'elle dit des bibliothèques, en fait.
Ça a tellement changé ma vie, je pense, que pour moi, c'est impossible d'entrer dans une bibliothèque sans être profondément émue, peu importe laquelle. Quand j'ai immigré à Stockholm, la première chose que j'ai dit à mon chum, c'est « je veux ma carte de bibliothèque ». Puis je suis rentrée, puis quand j'ai eu ma carte de bibliothèque, c'était comme si, ah, c'était plus important que la carte de résidente permanente. T'sais. C'était comme, OK, là, je vais appartenir ici, je vais pouvoir choisir des livres. Puis les livres, c'est comme ma maison. Ça a changé tout parce que mes parents ne pouvaient pas m'offrir des livres là, comme ça. Il n'y avait pas d'argent, mais la bibliothèque, on pouvait repartir avec des dizaines de livres. Et je les lisais tous, je les ramenais la semaine d'après, puis on en reprenait jusqu'au maximum. Et même plus parfois parce que les bibliothécaires étaient gentils. Et gentils, ils nous laissaient prendre plus de livres. Ça a fait en sorte qu'il y a eu d'autres destins qui ont été possibles parce que justement, j'ai pu m'éduquer grâce aux bibliothèques. Et je pense que c'est ça que les bibliothèques font.
Elle nous donne vraiment envie d'aller à la bibliothèque aujourd'hui tout de suite, là.
Oui, puis en fait, c'était très palpable quand je l'ai rencontrée, quand elle est rentrée dans la bibliothèque, toute l'admiration qu'elle avait pour cet environnement-là. Moi, ces paroles-là m'ont profondément émue parce que pour moi aussi, en fait, c'est pas pour rien que je suis devenue bibliothécaire, mais les bibliothèques ont toujours été un havre de paix, un endroit sécuritaire et en même temps un endroit où on pouvait découvrir plein de choses, en fait. Et pour elle, c'est carrément l'endroit qui a changé sa vie. Donc ça, on l'entend vraiment bien dans tout ce qu'elle dit dans cet épisode-là, que je vous invite à écouter.
Absolument. C'est donc le premier de la saison 3.
Oui, c'est ça. Le deuxième, c'est deux autres auteurs en fait qu'on a choisis pour le deuxième épisode. Deux parce qu'ils ont écrit à quatre mains un recueil de poésie. Donc, il s'agit de Baron Marc-André Lévesque et Timothée William Lapointe qui ont écrit le recueil de poésie Verdun Land. Donc, comme le titre l'indique, on s'en va cette fois dans Verdun. Mais alors, c'est un Verdun où les histoires sont complètement imaginaires. C'est un Verdun un peu merveilleux, en fait, où il y a des créatures imaginaires comme un géant, une ogresse qui sillonne les rues du quartier qu'on connaît, nous, en fait. C'est cet endroit-là qu'on explore de Montréal avec eux. Et le mélange des genres dans ce recueil-là, il sert vraiment à exprimer l'amour qu'ont ces deux auteurs-là pour ce quartier-là. Et c'est un quartier où ils ont vécu longtemps, même si aujourd'hui, enfin, il y en avait un qui revenait, l'autre qui n'était plus là. Mais ils ont vécu aussi en même temps, au même endroit, puisqu'ils ont été colocataires.
Ah ouais.
Oui, donc c'est deux poètes qui se connaissent de longue date, qui se sont mis vraiment à écrire ce recueil-là. Et je vous laisse d'ailleurs écouter ce que pense Baron Marc-André Lévesque de ce quartier et de ses spécificités.
Tu sais, Verdun-Land, c'est un personnage. Puis quand on vient à Verdun, même c'est... Verdun, en tant que tel, est un monde à part de Montréal, t'sais. Mais aussi, c'est proche. T'sais, on est vraiment proche du centre-ville, on est proche de tout, on est proche, surtout proche du fleuve. Moi, je capotais à Verdun d'être proche du fleuve à ce point-là. Mm. Mais si tu sors pas de Verdun, t'as tout.
T'as pas besoin de sortir de Verdun.
Tu te sens vraiment comme dans une autre ville complètement. T'sais. Puis moi, c'est ça que j'aime.
Si tu sors pas de Verdun, t'as tout. C'est pour ça qu'on a été inspiré par Verdun et qu'on a intitulé le balado Verdun Land.
Oui, c'est ça. Puis en fait, il y a cette idée-là qui traverse toutes les personnes à qui on a parlé pour cet épisode-là, c'est que Verdun, c'est un village. Et là, dans le recueil, ben, c'est un village encore plus merveilleux que ce qu'il est en réalité. Une des spécificités qui revenait aussi parmi les gens à qui on a parlé, c'était le fleuve. Alors, c'est une des très, très belles spécificités de ce quartier-là. Et c'est aussi ce que note l'équipe de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny que nous avons rencontrée dans le cadre de cet épisode. La présence et la grande proximité du fleuve dans ce quartier-là donnent une teinte et une ambiance très particulière à ce quartier et influence même l'humeur des gens qui viennent à la bibliothèque. Et ça, on l'a vu aussi avec Diane Bouchard, qui est l'usagère qu'on a rencontrée cette journée-là. Pour le troisième épisode de la saison, là, on change complètement d'ambiance et d'endroit. On s'en va dans le nord de l'île de Montréal et on se dirige vers Montréal-Nord, où on a rencontré à la bibliothèque Eve Ryan, l'autrice Suzanne Meer. On a discuté avec elle de son recueil « L'allumeuse », dont les histoires ont lieu à Montréal-Nord, qui est le quartier d'enfance de cette autrice-là. Et en fait, elle arrive dans la bibliothèque, puis ça fait 40 ans qu'elle ne l'a pas vue, cette bibliothèque-là, donc elle a complètement changé, mais elle retrouve quand même certains repères. Alors, cette rencontre-là, c'était assez unique pour elle, mais elle nous parlait aussi presque d'emblée de cette empreinte qu'a le quartier sur elle malgré le passage de tout ce temps-là et malgré le fait qu'elle a quitté le quartier depuis vraiment longtemps. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit.
Tantôt, vous avez parlé de sortir Montréal-Nord de vous.
Ouais.
C'est une impression que j'ai eue aussi en lisant le recueil. Les personnages, ils restent attachés, malgré eux ou pas, à Montréal-Nord. Ils sont incapables d'en sortir. C'est comme si ça les retenait tout le temps en arrière.
C'est drôle que tu dises ça, parce que c'est ce que je disais dernièrement à mon amie. J'ai l'impression que Montréal-Nord ne sortira pas de la fille que je suis. Ça a laissé une empreinte indélébile, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, cette empreinte-là, à part celle d'une enfance que j'imaginais heureuse, mais qui finalement était très malheureuse, tu sais. Celle d'une petite fille qui a perdu son père à 6 ans. Encore aujourd'hui, aucun souvenir de sa mort. Il y a eu comme un blackout, un mur qui est monté, probablement un mur de défense. Alors, mon père que j'ai presque pas connu parce qu'il était un père absent. Moi, j'évoluais dans l'univers restreint de ma mère. On n'avait pas de voiture, on sortait pas d'ici, on recevait pas chez nous. Ma mère était une espèce de personne un peu paranoïaque qui fermait ses stores, même pour aller aux toilettes parce qu'elle avait peur qu'on la voie jusqu'au... Tu sais, j'en parle de ça dans l'allumeuse.
Suzanne Meer, donc l'autrice de plusieurs livres, dont ce recueil dont il est question, L'allumeuse.
Oui, c'est ça. Puis ce qui est fascinant et ce que nous racontait Suzanne Meer, c'est qu'elle a d'abord écrit le recueil de nouvelles, en fait, et c'est seulement suite à une visite du quartier qu'elle voulait montrer à son conjoint qu'elle a tout réécrit en situant les nouvelles à Montréal-Nord, donc son quartier d'enfance. Et Suzanne Meer, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice qui est spécialiste de la nouvelle. Elle en écrit de très, très bonnes, ouais. Vraiment.
On rit jaune.
On rit vraiment très, très jaune.
Ouais.
Elle raconte des choses vraiment terribles à chaque fois dans tous ses recueils et dans ce recueil-là en particulier. Alors, elle traite de violences conjugales, de violences faites aux enfants, d'agressions sexuelles.
Non,
bref,
ici, il n'y a rien de drôle.
Non, c'est ça. Il s'agit vraiment d'une panoplie de sujets graves, mais qui sont toujours racontés sur un ton et dans des formulations avec lesquelles on ne peut pas s'empêcher de rire, en
ouais,
fait.
Oui, c'est ça, il y a une petite touche magique, là. Elle a ce talent-là, Suzanne.
Oui, exactement. Mais donc, on finit la nouvelle, qui a toujours une chute vraiment foudroyante, et on est soufflé, en fait, par le décalage entre le contenu, qui est parfois d'une violence inouïe, et notre rire, qui est très spontané, en fait. Mm-hmm. Et ce malaise-là, il est créé, puis il nous amène finalement à réfléchir au contenu de sa nouvelle. Et c'est ce qui rend son processus d'écriture vraiment intéressant.
Et le quatrième auteur, c'est une vedette depuis quelques années. On le recevait récemment à Canalet, Michel Jean.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment le dernier auteur de cette saison-là et non le moindre. Donc, journaliste, romancier, aujourd'hui très connu, comme vous l'avez dit, Hélène. Et Michel Jean, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il écrit des romans qui mettent en vedette des personnages autochtones, évidemment. Et à travers ces personnages-là, l'auteur sensibilise les lecteurs et les lectrices aux épreuves, en fait, qu'ont vécues et que vivent encore les personnes autochtones au sein de la société québécoise. Je vous laisse, en fait, écouter d'abord comment il décrit son projet pour son roman « Joe Jagge ».
Dans « Joe Jagge », on est quelques années plus tard, on est aujourd'hui, et Élie Michetonapeo n'est pas allé au pensionnat, mais ses parents sont allés au pensionnat. Et on voit qu'il continue de vivre avec les blessures des pensionnats dans les communautés aujourd'hui. Donc, je voulais raconter que ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, les pensionnats autochtones, c'est un événement et un traumatisme qui continue d'affecter les communautés autochtones aujourd'hui. Et je voulais que les gens comprennent que quand vous voyez un Autochtone itinérant dans les rues, puis il y en a beaucoup. Les Autochtones sont 10 % des itinérants à Montréal, puis en bas de 2 % de la population totale du Québec. C'est pas parce qu'on est des anciens nomades qu'on aime marcher dans les rues, c'est parce que les gens sont victimes de choses qui sont arrivées. Donc, je voulais écrire sur ça.
C'est ça. Donc, dans Joe Jagge, Michel Jean raconte le parcours d'Élie Michetonapeo, qui sort de prison, qui est exclu de sa communauté, et qui se retrouve itinérant dans les rues de Montréal. Et dans les rues de Montréal, il fait la rencontre de plusieurs personnes qui gravitent toutes autour du Square Cabot au centre-ville de Montréal, et entouré donc de ces personnes qui lui veulent presque toutes du bien. Pardon. Il parvient donc, malgré les épreuves, à reconstruire sa vie. On a choisi le Square Cabot avec Michel Jean parce qu'il y a une bibliothèque du nom du centre Sanaac qui va y ouvrir ses portes en 2025.
Ah oui?
Alors, on a triché un petit peu, c'est un petit peu prématuré, là, mais on voulait vraiment rencontrer Michel Jean. On avait hâte de le voir puis de parler avec lui.
Ça valait la peine de tricher.
Oui.
Le Square Cabot, centre-ville, c'est où exactement?
Le Square Cabot, c'est au métro Atwater. Et effectivement, autour du Square Cabot, il y a plusieurs organismes autochtones. Et effectivement, quand vous habitez Montréal et que vous passez là, il y a plusieurs autochtones de plusieurs communautés différentes qui se tiennent là, mais qui créent une communauté à eux et à elles, en fait. Donc, c'est vraiment très fidèle à la vérité. Donc, c'est ça. On a rencontré Michel Jean autour de ça. Puis, ce qu'il racontait, lui, de assez cocasse, c'est qu'il a choisi le Square Cabot parce que Caboto, c'est un explorateur italien. Donc, il trouvait la connotation de cette statue-là en plein milieu du Square Cabot qui était avec les personnes autochtones qui gravitaient autour de cette statue-là assez unique, disons. Mm-hmm. D'habitude, je vous présente des suggestions de lecture. Cette fois-ci, dans ces quatre nouveaux épisodes-là, on a demandé aux auteurs et aux autrices de nous présenter eux-mêmes leurs propres suggestions de lecture. Donc, ça va de Annie Ernaux à Romain Gary, à Naomi Fontaine, à Joséphine Bacon. Il y a toutes sortes de suggestions, ce qui est encore un incitatif pour vous d'écouter ces nouveaux épisodes-là. Et c'est un exercice vraiment intéressant parce que les auteurs et les autrices choisissent des livres qui les intéressent comme individus, mais on retrouve ces intérêts-là dans ce que eux-mêmes et elles-mêmes écrivent. Donc, c'est vraiment un exercice que j'ai trouvé fascinant à faire avec les auteurs et les autrices.
Je comprends. C'est un beau privilège pour vous et pour eux aussi de vous rencontrer parce que je trouve que vous êtes une fine intervieweuse
et une fine lectrice également. Merci beaucoup.
Alors, c'est Sarah Osama qui est avec nous aujourd'hui, bibliothèque à la direction des bibliothèques de Montréal, qui nous parlait de la troisième saison d'Histoire de quartier, le balado des bibliothèques, et on s'empresse d'aller découvrir, si ce n'est déjà fait. C'est disponible sur toutes les plateformes, c'est ce que vous disiez.
Sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur les sites web de la Ville de Montréal, vous ne pouvez pas y échapper.
Merci beaucoup, Sarah. À la prochaine.
À la prochaine.